Chapitre 5. Révélation. Peu après, nous nous sommes séparés. Des touches a pris la route qui menait directement à la côte. Juste le Breton et moi sommes restés jusqu'au dernier moment avec lui. Le chevalier marchait devant, comme quelqu'un qui sait où il va. Avec son expérience de marin, il connaissait, à une minute près, l'heure de la marée qui l'emmènerait en Angleterre. Nous pensions qu'un pêcheur l'attendait pour l'aider sur cette côte écartée. Mais quand nous sommes arrivés près de la mer brillante et calme, il n'y avait ni un être vivant qui attendait des touches, ni une barque pour l'emmener en Angleterre. « Mais comment allez-vous partir, chevalier ? » ai-je demandé. « Mais, mademoiselle, s'il n'y a pas de barque sur la plage, il y en a dessous. » Il a tiré de la ceinture de son manteau une serpette, et avec cette serpette, il a creusé le sable. En quelques secondes, des touches a déterré une bêche. Et 10 minutes après, à l'aide de la bêche, il a déterré sa barque. Il l'avait recouverte de sable lors de son dernier voyage. C'était son habitude, nous a-t-il dit. Il ne l'avait jamais dit à personne. Après avoir déterré sa barque, il l'a portée à la mer. Adieu, mademoiselle. Et vous aussi, monsieur Juste le Breton, nous a-t-il dit debout sur l'avant de sa barque. Il nous a salué de la main. Nous lui avons renvoyé son salut. Il a disparu entre deux vagues. Nous sommes rentrés à Touffe-de-Lys. Il faisait très beau. J'étais inquiète pour Aimé, à qui j'allais apprendre la mort de M. Jacques, cette mort que Destouche avait vengée, ce qui ne la consolerait pas. Je lui ai donc appris la mort de son fiancé. Elle n'a pas rien dit, mais elle a fait déterrer celui qu'elle appelait son mari du pied du buisson où nous l'avions mis. Et a demandé qu'on le roule dans cette robe de noces qu'elle avait portée un seul soir et dont elle a fait un suaire. Quand on lui a appris que Destouche était sauvée, elle a encore eu ce coup de soleil inexplicable. Et cette rougeur est restée inexplicable, monsieur de Fierdras. Pourtant, à chaque fois que le nom de Destouche, dont on parle bien peu maintenant, est prononcé devant elle, la rougeur revient sur les joues de cette fille qui mourra vierge. C'est incroyable, baron, mais c'est ainsi. Voilà toute l'histoire. « Eh bien, » a dit le baron, « j'ai très envie d'être à demain. Puisque l'abbé, tu es sûr d'avoir vu le chevalier ce soir sur la place des Capucins, nous aurons peut-être des nouvelles demain. » Ils sont partis. L'abbé, le baron et sa sœur ont ramené Mademoiselle Aimée, à qui on avait accordé la permission de rentrer tard à son couvent. Ils étaient plus ou moins impressionnés par cette histoire d'un des héros de leur jeunesse, mais il l'était moins qu'une autre personne qui était là, et dont on n'a pas encore parlé. Cette autre personne était un enfant, auquel il n'avait pas fait attention, car il ne pensait qu'à cette histoire. Lui, tranquille sur son tabouret, au coin de la cheminée, avait tout écouté. Il avait environ 13 ans. L'abbé, les années suivantes, n'a jamais parlé du chevalier Destouche à Mademoiselle de Spence. Cette dernière, quand les Touffe-de-Lys sont mortes, après Mademoiselle de Percy, n'est plus jamais sortie du couvent. L'enfant lui a grandi, mais il n'a jamais oublié cette histoire. Qu'était devenu le chevalier Destouche ? Quelle était dans la vie de cette belle et pure aimée de Spence ce mystère qui s'appelait aussi Destouche ? Cet enfant, c'était moi. Je n'ai jamais cessé depuis de penser à cet homme et de chercher à savoir ce qu'il était devenu. Un jour, j'ai appris qu'il était en vie. En Angleterre, on l'avait enfermé. Il s'était échappé et avait traversé Valognes par la pluie et par la tempête. C'est là qu'il avait croisé l'abbé. Puis il était allé vivre dans une famille à qui il avait fait peur à cause de sa folie furieuse. On l'avait à nouveau enfermé dans une maison de fous où il vivait depuis plus de 20 ans. Un jour, j'ai réussi à le voir. Il était assis sur une pierre dans une cour carrée, très propre et très blanche. Depuis longtemps, il n'était plus fou. On ne l'enfermait plus et on le laissait dans cette cour. Il était habillé en bleu, avec un foulard au cou, comme un marin, et c'était bien cela. Il ressemblait à un vieux marin, qui attend à terre et qui s'y ennuie. Le médecin m'a dit que le chevalier n'avait plus de folie furieuse, mais qu'il se croyait parfois gouverneur, âgé de 2000 ans, et qu'il ne me dirait sans doute rien. Dès que je l'ai vu, je lui ai dit « C'est donc vous, chevalier Destouche ? » Il s'est levé et a enlevé sa casquette de cuir me montrant un crâne chauve et lisse. « C'est étrange, » a dit le docteur. « Je n'aurais pas cru qu'il réponde à son nom. »« Vous souvenez-vous, lui ai-je dit, de votre enlèvement de Coutances, monsieur Destouches ?» Il a regardé dans l'air comme s'il y voyait quelque chose. « Oui, Coutances. Et le juge qui m'a condamné à mort, le coquin de... » Il a donné le nom du juge. « Et d'Aimé de Spence, vous en souvenez-vous ?» Il a tressailli. « Oui, encore aussi, Aimé de Spence qui m'a sauvé la vie, la belle Aimée. Ah, j'allais peut-être apprendre des choses. Nous étions seuls à Bois Frelon, vous savez, près d'Avranches. Tout le monde était parti. Les Bleus sont venus comme ils venaient souvent à petits pas. Ils ont entouré la maison. C'était le soir. Je me serais bien fait tuer, tirant avec mon fusil par les fenêtres, mais je devais emporter des lettres en Angleterre. Aimé a entr'ouvert les rideaux pour qu'il la voie bien. C'était l'heure de se coucher. Elle s'est déshabillée. Elle s'est mise toute nue. Ils sont partis. Ils l'avaient vue. Moi aussi. Elle était bien belle. Rouge comme les fleurs que voilà, a-t-il ajouté en montrant les fleurs sur la pelouse. J'avais mon histoire. Aimée avait sauvé la vie à Destouches, comme une femme ne l'a jamais sauvée à personne. Elle lui avait sauvé la vie en mettant de côté sa pudeur. Quand, à travers la fenêtre, les Bleus avaient, de l'endroit où ils étaient cachés, vu cette femme qui allait dormir et qui avait enlevé un à un ses habits, comme si elle avait été sous l'œil seul de Dieu, ils n'avaient plus de doute. Personne ne pouvait être là. Ils étaient partis et Destouches avait été sauvé. Destouches qui lui aussi l'avait vu, comme les Bleus. Jeune alors, il n'avait peut-être pas eu la force de fermer les yeux pour ne pas voir la beauté de cette fille qui se sacrifiait pour le sauver. Les rougeurs qu'elle avait au visage quand Destouches était là ou quand on lui parlait de lui étaient le souvenir de ce qui s'était passé. Je suis parti en ne pensant plus qu'à Aimé de Spence. J'avais presque oublié Destouches. Avant de sortir de la cour, je me suis retourné pour le voir. Il s'était rassis.